Les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une grève générale est annoncée en Belgique aujourd'hui. Tous les avions du pays sont cloués au sol. L'intersyndicale, qui réunit public et privé, réclame de meilleures hausses de salaire. Elles sont aujourd'hui encadrées par un texte de loi qui plafonne les négociations avec le patronat. Nous retrouverons notre correspondant à Bruxelles dans un instant.
Et vous entendrez aussi le député Mathieu Orphelin. Comme 85 de ses collègues, il demande une version juste et lisible de la fiscalité écologique. Est-ce le retour de la taxe carbone ?
Dans ce journal, vous comprendrez aussi pourquoi le numerus clausus en médecine sera supprimé. Le gouvernement et les praticiens sont d'accord pour cela. Le projet de loi santé est présenté ce matin.
Et puis en Espagne, le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, devrait être obligé de convoquer des élections législatives anticipées. Il n'arrive pas à faire voter son budget.
Après ce journal, le billet politique de Frédéric Seyss, autour ce matin des mille et une façons de s'excuser en politique. Elle est inédite à ce niveau depuis 5 ans. Une grève générale débute ce matin en Belgique. Elle pourrait être très suivie. En tout cas, c'est déjà le cas chez les aiguilleurs du ciel. Aucun avion n'est autorisé au départ ou à l'arrivée de la Belgique jusqu'à 22h ce soir. Trafic aérien paralysé. Et plus généralement, les transports, les administrations publiques, écoles, centres commerciaux, entreprises devraient être touchés. Le public donc et le privé. Bonjour Pierre Benazet.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Pierre, les trois grands syndicats du pays se sont unis. Ils protestent contre un texte législatif qui limite de potentielles augmentations de salaire.
Oui, parce qu'il y a en Belgique une loi qui s'appelle la loi de compétitivité de 1996 qui a deux effets. Le premier effet, c'est qu'elle prévoit une indexation automatique des salaires. Les salaires belges suivent donc l'inflation à la virgule près depuis plus de 20 ans. Alors si actuellement c'est assez faible, les salariés se souviennent d'augmentations automatiques à plus de 3% par an au début des années 2000. Le deuxième effet, c'est que pour des augmentations supplémentaires, la loi fixe à l'avance le cadre, les marges de la négociation. Il y a en Belgique un organisme qui date de l'après-guerre, le Conseil central de l'économie. C'est lui qui détermine la marge salariale. C'est la progression maximale qu'il est possible d'envisager sans engendrer un nouveau dérapage de compétitivité vis-à-vis des principaux voisins que sont l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Ensuite, syndicats et employeurs négocient à l'intérieur des limites qui sont préétablies. Or, le Conseil central de l'économie a limité cette année la marge d'augmentation à 0,9% pour deux ans, alors que les syndicats réclament, eux, 1,4% de marge salariale. Ce chiffre représenterait, selon eux, la différence entre l'indexation automatique des salaires en Belgique et les augmentations prévisibles dans les pays voisins.
Une grève, donc, Pierre, aujourd'hui est annoncée. Elle pourrait être importante. Peut-elle faire trembler le gouvernement belge ?
Eh bien pas tant que ça, parce qu'il est déjà en affaire courante depuis début décembre avec sa démission complète. Et pour les partis de la coalition, la préoccupation aujourd'hui, c'est surtout de se placer pour les législatives de mai et donc peut-être d'abonder dans le sens des syndicats ou des employeurs suivant leur stratégie. Et puis en plus, le gouvernement fédéral a une vraie capacité à faire le gros dos. Le Premier ministre Charles Michel avait avec succès laissé passer l'orage lors de la précédente mobilisation que vous évoquiez en 2014, alors qu'il avait pourtant été jusqu'à supprimer l'indexation automatique des salaires à l'époque.
Merci beaucoup Pierre Benazet depuis Bruxelles ce matin pour France Culture. Voilà donc des revendications sociales en Belgique. Comme en France, elles s'étaient fait entendre dès l'automne dernier, les regards se tournant vers les gilets jaunes français, certains même ralliant la cause en Wallonie. Eh bien depuis, en France, cette fois, ce sont des manifestations plus sporadiques, hétérogènes mais souvent violentes qui ont eu lieu. Au total, près de 1800 condamnations de gilets jaunes ont été faites depuis le début du mouvement. Voilà ce que précise le Premier ministre. Alors que s'ouvre aujourd'hui un procès qui promet d'être médiatisé. L'ancien boxeur gilet jaune fera face à la justice. Christophe Détinger comparaît à Paris pour avoir violemment frappé deux gendarmes. C'était au début du mois de janvier. Un procès quand, dans le même temps, les représentants des commerçants seront eux reçus à Bercy aujourd'hui. Ils vont évoquer les conséquences économiques des manifestations des gilets jaunes. Hier, la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, a parlé d'une catastrophe ayant mis 70 000 personnes en activité partielle. Cette colère des gilets jaunes, elle avait pris racine autour de la taxe carbone provoquant la hausse des prix des carburants. Cette taxe est enterrée pour l'année 2019, mais elle pourrait réapparaître ensuite. En tout cas, 86 députés publient une tribune dans les colonnes du Figaro. Des élus, principalement de la majorité et du centre, qui plaident pour une version juste et lisible de la fiscalité carbone. Le député Mathieu Orphelin, récemment parti de La République En Marche, est l'un des principaux signataires. Il estime que la fiscalité écologique peut être être acceptée par les Français à certaines conditions qu'il énumère.
1. Accompagner les gens, accompagner ceux qui en ont besoin. 2. Donner un sens à tout ça. 3. Être juste socialement. Et je crois que oui, c'est le moment, dans le grand débat, de remettre ces questions-là et d'imaginer ensemble les solutions. Ce n'est pas les solutions des uns et des autres. Ça doit être co-construit avec les syndicats, avec les associations de consommateurs, avec les citoyens. Il faut imaginer cette fiscalité écologique juste socialement. Ce n'est pas une taxe en plus, ça ne peut pas être ça, ça l'a montré. C'est une nouvelle façon de voir globalement la fiscalité, les incitations et surtout les accompagnements à changer.
Une vision de Mathieu Orphelin qui est visiblement partagée par certains ministres, dont François de Rugy à la transition écologique et sa secrétaire d'État Emmanuel Wargon qui estimait lundi que la politique écologique ne devrait pas être la variable d'ajustement des politiques économiques. Alain Duhamel, vous êtes l'invité des matins de France Culture. Comment le gouvernement, selon vous, peut remettre sur la table la taxe carbone ?
En arrivant à convaincre les Français que ça n'est pas de nouveau une augmentation d'impôts alors qu'on promet des baisses d'impôts. C'est très difficile en France, je dirais que c'est presque impossible en fait. Là où la taxe carbone a été bien accueillie, bien acceptée, bien intégrée par la population, par exemple au Canada, c'est parce qu'il y a eu une gigantesque campagne de communication gouvernementale qui a démontré que chaque centime, à la base ce ne sont pas des centimes d'ailleurs, chaque centime récolté était effectivement compensé et que la population n'y perdait rien. En France, je ne crois pas un instant que ce soit possible.
Voilà pour cet appel au gouvernement. Merci Alain Duhamel. On vous retrouve dans 10 grosses minutes pour la suite des matins de France Culture. Je rappelle que vous êtes journaliste, auteur notamment de Journal d'un observatoire paru aux éditions de l'Observatoire. Économie toujours, le gel du tarif réglementé de l'électricité cet hiver, décidé par le gouvernement. Ce gel devra être rattrapé, c'est ce qu'estime la Commission de régulation de l'énergie. Elle évoque une hausse de 5,9% du prix de l'électricité. Pas d'augmentation de la sorte avant la fin de l'hiver, voilà ce que répond le gouvernement. Et quel système de santé pour demain à présent ? Le projet de loi qui s'y attelle est présenté ce matin au Conseil des ministres, entre urgence et ordonnance, car le texte doit être adopté d'ici l'été pour pouvoir réformer en priorité les études de santé et la carte hospitalière. Parmi les différentes mesures, nous pouvons citer ce label qui sera décerné à 500 ou 600 hôpitaux de proximité, des établissements recentrés sur la médecine générale, la gériatrie et la rééducation sans chirurgie ni maternité. La télémédecine sera également encouragée, les ordonnances dématérialisées et puis le numerus clausus sera supprimé. Autrement dit, l'État ne va plus fixer seul le nombre de médecins dont la France a besoin et accepter donc en deuxième année de médecine. Une réforme bienvenue et nécessaire selon les étudiants et les professionnels, Tara Schlegel.
Ce couperet du numerus clausus, fixé a priori par le ministère, est inopérant, rappelle Clara Bonavion. Elle préside l'ANEMF, le syndicat des étudiants en médecine.
On est incapable de prévoir les besoins démographiques à long terme, et c'est ce que prétendait faire le numerus clausus. Et c'est parce qu'on a diminué le numerus clausus drastiquement dans les années 70-90, il était à 3000 alors qu'actuellement il est à 8000, qu'on arrive avec des problèmes qu'on a actuellement de démographie médicale avec pas assez de médecins parce que dans les années 70-90, les politiques de santé ont été « on diminue le nombre de médecins, comme ça on aura moins de dépenses de santé », ce qui n'est pas la bonne équation.
Aujourd'hui, pour tenir dans le numerus clausus, pour départager les étudiants au bout d'un an, eh bien le concours se résume à un QCM qui sanctionne juste du par cœur, dénoncent Raphaël et Alice, eux aussi militants.
On doit cocher des cases, des réponses justes ou des réponses fausses, et ça peut arriver concrètement entre le 157e et 158e, ben ça correspond à une case mal cochée.
Le problème du numerus clausus, c'est que on pouvait en déjà avoir doublé, être par exemple 158 sur 157 et devoir demander un triplement, par exemple, triplement pour refaire une année parce qu'on ne rentrait pas dans les cases.
Le problème, au final, c'est la méthode d'évaluation.
C'est-à-dire ce couperet qui laisse plus de 80% des étudiants sur le carreau, parfois après 2-3 ans d'études, poursuit Clara Bonavion.
Après, on ne va pas pouvoir non plus ne plus sélectionner parce qu'on a des facultés de médecine qui sont saturées en termes de capacité de formation. Donc, on a besoin d'une réforme, et c'est ce qu'a annoncé le président, d'une réforme de cette première année commune aux études de santé pour avoir une année qui est réellement formative et pas juste sélectionnante et qui nous permet d'apprendre des choses intelligentes et qui nous serviront plus tard.
Et ce carcan du numerus clausus est donc censé disparaître à la rentrée 2020. Selon la ministre de la Santé Agnès Buzyn, cela va permettre d'augmenter de 20% à peu près le nombre de médecins formés en France. Ce projet de loi-là est déjà discuté à l'Assemblée nationale à propos de l'école de la confiance de Jean-Michel Blanquer. Et les députés ont adopté hier soir un article sur l'homoparentalité dans les formulaires scolaires. Ils devront désormais porter la mention parent 1 et parent 2 et non plus les mentions père et mère. Autre amendement voté hier, l'inscription pour la première fois dans le code de l'éducation, l'inscription du droit à une scolarité sans harcèlement. Un enfant sur 10 est touché chaque année.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal dans les matins. Carles Puigdemont a qualifié hier le procès des indépendantistes catalans de mascarade.
Ouais, la figure de l'indépendantisme n'assiste pas à ce procès où 12 dirigeants, dont lui, sont accusés. Accusés d'avoir organisé un référendum d'autodétermination il y a un an et demi en Espagne, en Catalogne. Le scrutin est jugé illégal par le pouvoir espagnol. Les indépendantistes qui, par ailleurs, au niveau de la politique intérieur empêche en ce moment le gouvernement de faire passer son budget, Marie-Hélène Ballestero.
C'est désormais quasiment une certitude. Sauf surprise de dernière minute, le projet de budget de l'exécutif socialiste de Pedro Sanchez ne sera pas adopté au Parlement. Ce gouvernement minoritaire formé en juin dernier ne dispose en fait que de 84 des 350 députés. Or pour l'instant, il ne compte que sur le soutien des nationalistes basques et de Podemos. C'est insuffisant pour sauver le projet de loi de budget. Comme prévu, ce sont les indépendantistes catalans qui ont le pouvoir de débloquer la situation. Pendant des semaines, le gouvernement Sanchez a essayé de les convaincre, ce qui a provoqué la colère de l'opposition qui a accusé le pouvoir central de céder au chantage des indépendantistes. Mais cette fois, le dialogue semble bel et bien rompu entre Madrid et l'exécutif catalan. La ministre espagnole des Finances l'a encore répété hier au Parlement, ce gouvernement ne veut pas et ne peut pas accepter le droit à l'autodétermination du peuple catalan, la condition avancée par les indépendantistes pour soutenir le budget. Résultat, sans leur appui, le budget ne sera pas approuvé, ce qui veut dire que le gouvernement Sanchez va sans doute convoquer rapidement des élections législatives anticipées. Et les spéculations vont bon train ces derniers jours en Espagne. Quels jours auront lieu ces élections? La presse espagnole a avancé plusieurs dates, 14 avril, 28 avril, 26 mai. Le chef du gouvernement devrait se prononcer rapidement.
Il a été jugé coupable. El Chapo, célèbre narcotrafiquant mexicain, devrait écoper d'une peine de prison à perpétuité pour avoir co-dirigé un puissant cartel de drogue. Ses avocats annoncent déjà qu'ils feront appel. Le procès de El Chapo à New York aura duré 3 mois et demi. Il a étalé la violence et la corruption des cartels jusqu'aux États-Unis. Les États-Unis qui pourraient envoyer un premier convoi humanitaire au Venezuela d'ici 10 jours, le 23 février. C'est l'opposant dans le pays, Juan Guaido, qui l'annonce. Réponse du ministre vénézuélien des Affaires étrangères depuis l'ONU hier. Il n'y a pas de crise humanitaire au Venezuela, a-t-il dit. Lui préfère parler d'une économie bloquée et assiégée. Accentuer la pression sur l'Iran, voici l'objectif d'une conférence internationale qui se tient ce mercredi à Varsovie, malgré les inquiétudes de plusieurs pays de l'Union européenne, la France et l'Allemagne notamment. L'Iran n'est pas invité à cette conférence, la Russie, elle, a refusé d'y participer. Alors la Pologne et les États-Unis, qui sont co-organisateurs, tous les deux restent assez discrets, Thomas Giraudeau.
Peu d'informations filtrent sur ce qui pourrait ressortir de cette conférence de Varsovie. Plusieurs thèmes au programme, le financement du terrorisme, la cybersécurité, le développement et la prolifération des missiles. Il sera donc forcément question de l'Iran qui inquiète en ce moment avec son programme de missiles balistiques. Pourtant, hier, lors d'une conférence de presse à Varsovie, le secrétaire d'État américain n'a pas parlé une seule fois de l'Iran. À ses côtés, le ministre des Affaires étrangères polonais, Jacek Czaputowicz, ne l'a évoqué que quelques secondes.
La Pologne est membre de l'Union européenne, donc nous acceptons le traité sur le nucléaire iranien. Nous considérons que c'est un élément important. Les États-Unis ont une vision différente, mais cela ne doit pas nous empêcher de trouver une approche commune. Selon moi, l'Union européenne n'a pas suffisamment de pouvoir politique pour être capable, seule, d'avoir un impact au Moyen-Orient.
Et d'encourager ses partenaires européens à s'entendre avec les États-Unis sur l'Iran, ce ne sera a priori pas le cas lors de cette conférence de Varsovie initiée par les Américains, mais l'objectif numéro un de l'événement pour le pays hôte est ailleurs. Robert Chulda est spécialiste de l'Iran et des questions de sécurité à l'université de Łódź en Pologne.
La Pologne a un problème avec la Russie, elle la considère comme une menace. Donc la stratégie, l'objectif numéro un de la conférence est d'obtenir l'installation de troupes américaines sur le sol polonais. Aujourd'hui, elles viennent et repartent, nous voulons un déploiement permanent.
Selon cet expert, la Pologne peut largement sacrifier ses faibles relations diplomatiques et économiques avec l'Iran pour convaincre les États-Unis d'installer une base militaire permanente en Pologne. Le Pentagone doit se prononcer sur le sujet le mois prochain.
Thomas Giraudot à Varsovie pour France Culture. France Culture mise à la fête ce mercredi comme toutes les radios. L'UNESCO fête la 8e édition de la Journée mondiale de la radio. Elle a commencé en France, sachez-le, le 26 novembre 1921 en chanson. Au premier jour de la radio en France, c'est un article à retrouver sur franceculture.fr. C'est aussi une photo, photo de la cantatrice Yvonne Brottier qui fut la première en France à chanter la Marseillaise ou le Barbier de Séville en direct à la radio ce 26 novembre 1921. L'article est en une sur notre site internet ce matin. La météo en France métropolitaine, elle est assez simple ce mercredi. Du soleil pour tout le monde, malgré quelques grisailles matinales au nord de la Loire. Comptez ce matin 2 degrés à Strasbourg, Lille et Lyon, 3 en région parisienne, 4 degrés à Nantes et Bordeaux, 11 à Marseille. Cet après-midi, il fera 7 à 14 degrés du nord au sud.
Merci Clara Lecoq-Réal.